Et championne, votre émission sur le sport féminin. Dans cette émission, nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. En l'occurrence, ce soir, on va parler de lugeurs, de pistes, hiver, glisse, virage, chute. Alors nous ne parlerons pas de Happy Feet, le film d'animation de 2006 où l'on suit l'épopée d'un pingouin dans une colonie de manchots qui trouve l'âme sœur en chantant. Mais le héros a un handicap, il ne sait pas chanter. Tout le monde n'est pas Maître Gims, bien sûr. Et maintenant, reprenons avec le sport. Vous l'avez deviné, nous allons parler de ce sport où on envoie des gens assis sur une planche mêlant bois, plastique et métal à des vitesses comme 140 km/h sur des pistes de bobsleigh, la luge sportive. Nous parlerons de la luge sportive, sport méconnu mais olympique depuis 1964. Ensuite, nous brosserons le portrait de la légende allemande Nathalie Gainsenberger. J'espère que je l'ai bien prononcé, aux 80 médailles d'or dans sa discipline, dont 6 au JO. Enfin, nous parlerons librement de ce sujet intéressant. En 2026, une femme peut-elle pratiquer du sport par plaisir, ou doit-elle répondre à une norme, une mode, qui dicte encore comment son corps doit être? Pour cet épisode, je serai accompagnée de Mélanie, dite la chanteuse de diamants sans peur et sans reproche du 95. Ça va Mélanie?
Ça va.
Content d'être là?
Toujours, toujours.
Bonne année.
Bonne année.
Où que vous soyez, bonne écoute, merci de votre attention. Cet épisode, c'est l'épisode 1 de la saison 3. Salutations à tous, auditeurs, auditrices, bonjour, j'espère que vous allez bien, bonne année à tous. Nous allons donc parler de vitesse sur glace, un sport qui nous paraît si infantile, si inconscient, si peu dangereux, ni plein d'adrénaline, que nenni. La luge sportive ou luge de course a déjà 48 éditions de Coupe du Monde, sport olympique depuis 1964, des compétitions qui remontent à 1883 en Suisse. Pendant 1 minute 30 à 2 minutes maximum, une piste rapide de bobsleigh depuis 1974 propulse un lugeur ou une lugeuse à plus de 100 km/h allongé sur une planche. Gare au décalage, parce que sinon vous décollez en direct sur la Lune sans escale, ce qui peut être un peu compliqué. Casque obligatoire, gants avec des griffes, vous avez même sous la planche des terribles, comment pourrais-je dire, lames, c'est littéralement...
Des patins nommés lames spécifiquement pour la luge.
Bien vu. On va vous expliquer tout cela, mais avant, auto-promo bien sûr. Alors vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission le vendredi de 19h à 20h, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais aussi le mercredi en rediff de 17h à 18h. Nous sommes bien en direct comme d'habitude, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout retrouver en podcast. Si vous êtes coincé quelque part en train de réfléchir à comment braver la neige ou les tempêtes, pas de problème. Vous tapez Google, vous mettez Allegre FM Podcast, c'est gratuit, et vous cherchez l'émission championne. D'ailleurs vous avez plein d'émissions sympas comme l'étincelle dans la ville, Cappuccino, les arènes de l'écologie, Radio Scénique, au fil des pages. Vous aimez la musique? Chacun son tempo. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreille que tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont bien en ligne. C'est fou, on est toujours dans les temps, c'est extraordinaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, @championne_l'émission. Déjà, on va prendre un petit instant. Comment ça va cette semaine, ma chère Mélanie?
Bah écoute, ça va super bien. J'ai adoré cette semaine, la neige qui tombe du ciel, les villes toutes blanches. Pas de transport, malheureusement, mais c'était chouette. Un petit chocolat chaud, un petit peu de chantilly par-dessus et c'est beau l'hiver.
Voilà, l'hiver était là, l'hiver était présent. C'est extraordinaire. Alors pour comprendre la présence de Mélanie dans le micro, pas de problème, je vous explique. Puisque nous les hommes, on peut parler de n'importe quel sport sans l'avoir pratiqué à haut niveau, et que notre dernière compétition officielle remonte sans doute à un unique sport et souvent en 1995, eh bien sachez que parler de sport n'est pas genré. Il suffit de s'informer, s'intéresser, se passionner, et n'importe qui peut en discuter. La preuve, certains journalistes sportifs, des types sur leur canapé, dont je fais partie, et ceux à la machine à café parlent tout le temps de sport. Donc ce soir, Mélanie, tu seras la preuve vivante que tous les êtres humains peuvent parler de sport, tant et si peu qu'ils se soient un petit peu renseignés sur le sujet.
Et ben ça me fait plaisir.
Ben je t'en prie, le sport appartient à toute l'humanité, c'est ainsi. Dédicace à la régie qui nous accompagne bien sûr, toujours présent, ça fait plaisir de vous avoir. Merci à tous et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant de luge. Alors déjà, est-ce que tu connaissais la luge sportive?
Alors sportive, non. Quand tu m'as dit ce serait chouette de faire un sujet sur la luge, j'ai eu tout de suite l'image de « oh petite ». Quand on n'a pas le droit de faire de ski ou qu'on ne sait pas trop se débrouiller, et ben en fait, on nous met sur une luge.
Effectivement.
Et j'ai le souvenir aussi, chez mes grands-parents en campagne, d'avoir la petite luge. Et pour moi, ça restait juste une activité sympa d'enfant.
Ludique.
Et c'est vrai que du coup, je n'avais pas pensé à la luge sportive. Alors qu'en me renseignant, c'est un sport de fou.
C'est un sport extraordinaire.
Il est génial.
Si vous aimez l'adrénaline, vous allez être servi. C'est complètement fou. Alors, il faut savoir que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une discipline olympique depuis 1964. On utilise des pistes de bobsleigh depuis 1974. Et le record du monde, mesdames et messieurs, qui a été édité en février 2009 par l'allemand Volker Lock, eh bien, c'est 153,9 km/h.
Il faut se rendre compte, c'est 20 km/h au-dessus la limite autorisé sur l'autoroute. C'est fou.
C'est complètement dingue. Ce sport est le sport le plus rapide des JO d'hiver. Alors, la luge, un petit peu d'histoire, mesdames et messieurs. C'est un sport de glisse sur glace qui trouve ses origines bien avant son statut compétitif. Des pratiques similaires sont attestées dès le XVIe siècle en Allemagne et en Autriche. Mais la luge en tant que discipline organisée naît au XIXe siècle. On attribue au charron. On dit charron, on est bien d'accord ?
J'aimerais te dire oui avec
je crois que c'est certitude. Ça me dit quelque chose, une chanson, ça sonne charron. Charron Grison Emmanuel Heinz à la fabrication en 1880 et dès 1883, le village de Davos en Suisse réussit à faire la première course historique de luge. La luge fait donc partie du programme des Jeux Olympiques depuis ceux de Innsbruck en Autriche en 1964. Et aujourd'hui, il y a toujours l'épreuve masculine, l'épreuve féminine, le double, c'est-à-dire deux personnes sur la planche, et ça c'est extraordinaire, on va vous expliquer comment ça marche, c'est complètement fou. Et bien sûr, le relais. Alors un relais sur plusieurs disciplines, et c'est l'équipe la plus rapide qui gagne. Le but est d'être le plus rapide possible, c'est assez fou. Et effectivement, la luge. Alors, il faut savoir qu'on prend des pressions assez fortes jusqu'à 6G. Il faut savoir qu'il faut le casque obligatoire, les petits grands crantés, vous êtes assis sur votre planche, vous avez deux espèces de poignées. Ouais, bien vu. De poignées sur le point de départ. Le lugeur fait un mouvement de va-et-vient, se prépare.
Prendre l'élan.
Il s'oriente sur la piste. Mm-hmm. Il se lance, il s'allonge, il n'a pas de frein. Et il est parti.
Et là, tout est dans le gainage.
Exactement. Alors, je pense que tu as des informations sur les règles, un petit peu comment ça se danse.
Alors, déjà vas-y. Sur l'équipe, parce que l'équipement, il est très précis. Et en compétition, il n'y a pas trop le droit à énormément de liberté. L'équipement, c'est d'abord l'équipement principal, la luge. La luge, elle a un poids réglementé en fonction de si la compétition, c'est du simple ou du double.
Oui.
Donc sur du simple, on est sur des luges de 21 à 25 kg maximum.
Ah oui.
Ouais. Sur du double, on est sur du 25 à 30 kg. Ça augmente un petit peu. Après, sur le reste de l'équipement, comme tu l'as dit, le casque avec la visière, très
important.
Si on est à 150 km/h sur une moto, ça vous viendrait pas l'idée de pas mettre une visière, et ben là en luge, c'est pareil. On évite les projectiles, le froid et le vent dans les yeux, ça peut être très très désagréable, j'imagine. On a les gants crantés.
Donc, tout à fait.
Sur le majeur, sur l'annulaire et sur l'index, on a des griffes de 5 mm maximum. Très important et qui permettent au lugeur de se lancer au tout début de l'épreuve. Et ensuite, on a les patins, donc les fameuses lames, les deux lames qui sont, elles, entre la luge et la glace, toujours sur cette piste de bobsleigh.
Tout à fait.
Et du coup, il appartient au lugeur d'entretenir ses lames, de les limer, de les poncer pour qu'elles glissent le plus rapidement possible sur la glace. Ça, c'est pour l'équipement.
C'est déjà pas mal. Merci beaucoup
ces
éclairages. Bah, tu vois, j'avais pas le nombre de doigts crantés, etc.
Il y en a que 3.
Je pensais que c'était toute la main, tu vois. Donc, tu veux continuer ?
Sur les règles ?
Mais vas-y, je t'en prie. Lance-toi.
Donc, on a les règles pour le simple femme ou le simple homme qui sont une piste. Tous les compétiteurs s'affrontent sur la même piste. Ça se passe en 4 manches et sur 2 jours. Et ouais. Chaque compétiteur passe 4 fois et on va additionner le chrono de chacun des passages pour avoir le résultat complet de sa course. Mmh. Et c'est ce classement général final qui permet de départager les différents
qui est le plus rapide, en fait.
Exactement. Si on est sur du double femme et homme, alors là, on est toujours sur une seule et même piste et chaque couple a 2 essais. Mais là, ça se passe en un seul jour.
D'accord, ok.
Et sur les équipes relais, donc tu en parlais tout à l'heure, les relayeurs, donc là, ça peut se passer en simple femme, simple homme ou en double aussi. L'objectif, c'est que le premier lancé sur la piste fasse le plus rapidement possible son tour de piste et il doit toucher un pavé tactile qui va permettre l'ouverture d'une porte et qui permettra le lancer de son relayeur.
Le suivant.
Ouais.
D'accord. Ah oui, au lieu d'avoir un relais, un témoin.
C'est ça, c'est un pavé tactile à toucher pendant la lancée. Donc, faut imaginer viser un pavé tactile à 140 km/h. Faut pas se louper.
Mais c'est exceptionnel. Ah, c'est plein d'adrénaline. Voilà, bravo. Effectivement. Alors, moi, ce que j'ai lu, tu me contrediras si mes sources ne sont pas si fiables, mais j'ai vu qu'il y avait des... pour la descente, on est à 10-12%.
Ouais.
Ce qui est quand même assez ouf.
C'est énorme.
On est sur 10-12%. Je vous laisse imaginer quand vous êtes allongé sur la glace, propulsé dans des virages complètement fous à 10-12%. Les pistes font entre 1300 et 1500 mètres.
Ouais, c'est long.
Ouais, un tour peut être en 1 minute 33, 1 minute 30, 40. Alors je vous laisse imaginer 140 km/h, 1500 mètres en 1 minute 40. C'est très rapide. Et surtout, c'est l'orientation moi qui m'a complètement bluffé. C'est qu'en fait, ils sont obligés de faire des micro-mouvements pour pouvoir s'orienter sur la piste tellement ça va vite.
C'est ça. Il n'y a pas de guidon. Il faut se rappeler, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de guidon. C'est
ton
corps, l'instrument. Et du coup, des micro-pressions au niveau des épaules ou des cuisses vont faire virer la luge dans un sens ou dans l'autre. Et à la vitesse à laquelle ça se joue vraiment sur... de la micro-pression. Et c'est là toute la beauté de ce sport, c'est tout se joue dans le détail. Le chrono n'est pas à la seconde près, mais au centième de seconde près. Oui. Pour départager deux lugeurs, ça se joue à un cheveu
de vitesse. Oui. On en est là. Donc effectivement, c'est un jeu d'équilibre. Alors c'est fou parce qu'il faut avoir des réflexes de feu et un équilibre inné pour pouvoir déplacer effectivement le jeu et gagner ses centièmes de seconde pour être plus rapide que son adversaire. Alors évidemment, c'est dangereux, il peut y avoir des accidents, c'est pour ça que le casque est obligatoire. Donc il y a eu un malheureux accident, je te laisse développer sur ce sujet-là.
Du coup oui, les règles de sécurité ont évolué avec le temps, donc... On a parlé de la visière tout à l'heure et du casque. Il faut savoir qu'il y a un équipement de sécurité sur les lugeurs, ça s'appelle la jugulaire. Ça permet de maintenir les cervicales, la tête alignée, pour éviter qu'avec la puissance des jets que le lugeur subit, les cervicales soient endommagées.
Ouais.
Mais du coup, il n'y a pas de rembourrage, il n'y a pas de gilet
de sauvetage.
Il n'y a pas de gilet de sauvetage, exactement.
Pas de airbag magique.
C'est ça. Et du coup, malheureusement, en 2010, lors des JO de Vancouver, l'athlète géorgien de 21 ans qui s'appelait Nodar Kumaritovila est décédé lors de l'entraînement. Donc, même pas en compétition. Il s'est lancé sur la piste de bobsleigh, c'était filmé. Et lors d'un virage, il a été éjecté de la piste.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, les règles ont changé et du coup, malheureusement, il n'y a pas la possibilité de mettre plus d'équipement parce que c'est le sport en lui-même
en vitesse.
Qui est obligatoirement, enfin qui impose une légèreté aux lugeurs. Et du coup, la seule chose qui a été mise en place, c'est de créer des pistes de bobsleigh, du coup, avec des virages moins serrés.
Moins serrés,
pour éviter. Qu'il y ait d'autres
sorties de piste, en fait.
Une sortie de piste, exactement.
Ouais, les sorties de piste sont dramatiques à une telle vitesse.
C'est ça.
On rappelle qu'il n'y a pas de frein, on rappelle qu'il n'y a pas d'airbag, on a juste un casque et une combinaison en néoprène. Donc la chute peut être fatale. Donc si vous faites de la luge, n'hésitez pas à vous rapprocher de vraies personnes, de vrais professionnels qui en font. N'en faites pas n'importe comment, c'est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Pour les compétitions, il existe effectivement des championnats du monde de luge qui ont lieu depuis les années 50. On est à la 48e édition exactement. Pour les Jeux Olympiques d'hiver, comme j'ai dit, depuis Innsbruck, en Autriche et en 1964, il y a plusieurs épreuves qui sont au calendrier. Il y avait déjà l'épreuve femme, l'épreuve homme, comme quoi c'est un sport mixte et ça c'est plutôt cool. Il y a aussi une Coupe du monde de luge qui se déroule chaque saison. Elle est organisée par la Fédération internationale de luge de course, la FIL, avec de nombreuses étapes en Europe et parfois en Asie. Donc vraiment, ils vont de lieu en lieu et gagne des points. C'est comme un mini championnat, c'est super cool à regarder. Spécificité évidemment, comme je l'ai dit, les pistes officielles 1200 à 1500 mètres, une côte à 10-12%, des pointes à 140 km/h. C'est un sport qui est audacieux et millimétré. Il vous faut vraiment une grande concentration. Quelque chose que j'ai lu qui était assez fou, c'est que moi personnellement à cette vitesse je serais extrêmement tendu, mais il faut pas. Il faut être d'une détente et d'un flegme extraordinaire, avoir le karma avec soi et de pouvoir comme ça naviguer au gré de la vitesse.
C'est
vraiment voilà, onduler, c'est le mot. Merci. C'est exactement ça. Pour ce qui est de la France, effectivement, on a la Fédération française des sports de glace qui encadre ce sport. Alors, j'ai fait mes recherches. Évidemment, c'est la question cruciale, comme d'habitude, la question que je pose aux auditeurs et à vous. Vous pouvez jouer. Alors, celle-là va être un peu plus difficile, effectivement. Donc, pour la luge, la Fédération française des sports de glace gère ça. D'après vous, combien il y a de clubs agréés en France ?
Ah, de clubs ? Pas de licenciés, du
coup. Non, de clubs, d'abord. Licenciés, j'ai même pas réussi à trouver, pour dire.
C'est très compliqué. De clubs, ma foi ?
Très peu.
Déjà, j'élimine toute la Côte d'Azur. Vous me dites, ok, là, il n'y en a pas.
Tu peux éliminer la tout Bretagne, ce qui est chaud. Voilà, vraiment, on est vraiment sur très peu de choses.
Enfin, je sais pas, je dirais... combien de clubs 70.
Très
bien.
Ça
fait beaucoup.
Alors, effectivement, pas du tout. Je suis pas... Si vous avez trouvé chez vous, vous êtes très fort, parce que moi, je ne m'y attendais pas. Il n'y a que 3 clubs agréés.
Oh, wow.
La Plagne Tarentaise, il en a même 2. Hein, parce que là-bas, effectivement, il y a eu des JO d'hiver à un moment donné, donc ils ont des pistes de bobsleigh. Il y a le Bobluge et le CBLS. Et à Paris... Le Paris-Boulogne Olympic Club a une section luge, parce qu'ils ont aussi le patinage artistique, ce genre de choses. Pour ce qui est des licenciés, je n'ai pas réussi à trouver. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2024, il y a 30 172 licenciés et 156 clubs agréés pour la Fédération Française des Sports de Glace. Et dans ces 30 000 licenciés, il y a forcément des lugistes. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des JO qui auront lieu à Milan en mois de février, nous n'avons pas de délégation officielle de luge. On sera dans le patinage, on a pour la première fois le hockey sur glace, mais sur la luge, c'est pas encore notre truc. Donc si vous avez des vocations, c'est peut-être le moment de vous renseigner.
Il vous reste un mois, lancez-vous.
Effectivement, il y avait les qualifications au mois de novembre. Donc effectivement, on n'a pas encore un rayonnement national autour de la luge, mais ça reste un sport vraiment de précision. Alors, il faut compter aussi, évidemment, si vous voulez faire de la luge, il y a de l'équipement. Alors, si vous voulez le casque, il faudra dépenser environ 120 € pour un casque, une centaine d'euros pour une combinaison. Les planches, c'est minimum entre 150 et 200 €. Il faut aller dans un magasin spécialisé. Une centaine d'euros pour les gants, ce qui veut dire que le package, c'est minimum 500 € sans le forfait accession, et sachant qu'une licence coûte à peu près entre 30 et 50 € entre loisirs et professionnels chez la Fédération Française de Glace. Donc, c'est un sport qui est un sport niche, un peu comme le sumo qu'on avait fait. Néanmoins, il y a quand même des adeptes. Vous pouvez avoir des profils d'initiation dans certaines stations de ski qui possèdent des pistes de bobsleigh. Il vous faudra vous acquitter d'un forfait entre 100 et 130 €. Alors, c'est à faire, pour le coup. Généralement, ce sont des luges spéciales où on est plusieurs. C'est un peu comme un mix entre une luge et un bobsleigh. Okay. Voilà, puisque laisser tout seul sur une planche, il faut quand même avoir une bonne assurance. Hein.
C'est sûr.
C'est pas si facile que ça. Donc voilà pour la luge de course en large. Du coup, est-ce que toi, pour ces Jeux Olympiques d'hiver, tu vas regarder?
Ah ouais. Mais moi, j'adore les JO de manière générale, d'été et d'hiver, j'adore ça. Je trouve que c'est génial parce que ça permet de faire découvrir beaucoup de sports. Et comme je sais que je regarderai le curling avec plaisir, le bobsleigh aussi, c'est super. Et pour le coup, ce que j'ai vu, c'est que ça va être la première année aux JO où, spécifiquement pour la luge, ils vont ajouter le double femme et le double homme. Parce que jusqu'ici, il n'y avait que des doubles mixtes.
D'accord.
Donc ce sera l'occasion de regarder ça.
Bah écoute, moi je vais regarder avec plaisir. Même si on n'a pas de français, il n'y aura pas de cocorico, mais je vais quand même regarder, parce que ça reste un sport, je le redis, hein, vraiment très impressionnant pour le coup. En attendant, nous allons partir en musique. Voilà, on va écouter une musique qui a été créée et pensée pour les fêtes de fin d'année. Attention, il faut deviner le film qui lie à cette musique. Donc le pitch du film est facile, c'est une jeune fille dont on veut planifier la vie, ce qui est un classique, vraiment. Elle rêve d'aventure, comme ses ancêtres, mais la société lui voue un destin plus stable, avoir des enfants, rester à la maison. Bref, une vie dans le 16e avec vue sur mer. Mais une catastrophe se prépare, et grâce à ça, sa grand-mère qui croit en elle et leur pouvoir mystique, notre héroïne part sur les mers à la recherche d'un moyen de sauver son village et sa famille. J'espère que vous avez deviné le film. C'est le moment de mettre la musique. Musique Maestro.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. J'aimerais t'en rester fidèle à ma terre, oublier le vent éphémère. J'ai essayé tant de fois. J'ai beau dire je reste, je ne partirai pas. Chacun de mes gestes, chacun de mes pas me ramène sans cesse, malgré les promesses, vers ce bleu. L'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle cache un trésor que tous ignorent. C'est le vent doucement qui se lève et me révèle le bleu de l'eau. Si je pars, j'irai plus loin et toujours plus haut. Il faut aimer mon île et son histoire. Pour ceux qui veulent encore y croire, oubliez le temps qui passe. Il faut aimer mon île et son histoire et garder encore l'espoir. Un jour je trouverai ma place. Je veux les guider, les rendre plus grands, les accompagner. Je prendrai le temps, mais cette voix cachée passe tout autrement. Je ne comprends pas. Le soleil vient danser sur la mer éternelle, et tout s'ignore, ses reflets d'or. Elle m'attend sous un tapis de lumière, la mer m'appelle. Moi je veux voir derrière les nuages de nouveaux rivages, l'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle, cache un trésor.
Bonjour à nouveau auditrice, auditeur, je suis toujours Cadlom 92, nous sommes toujours sur Allegre FM 93.1, vous êtes bien dans l'émission championne qui traite de sport féminin. On vient d'écouter un titre légendaire, aviez-vous le film La Régie l'avait ? L'avais-tu ?
Moi j'ai eu un doute et en fait non je l'avais pas, j'avoue je l'avais pas, mais je connais les paroles.
Ah bah tu connaissais le son hein, quand même. Alors pour la réponse, eh bien c'était notre amie Cerise Calixte qui interprète Bleu Lumière pour le film d'animation Disney Vaiana sorti en novembre 2016. Un film de Noël évidemment, je reste sur cette période parce que la neige de la Seine m'a fait penser que j'étais plus dans mon pays, j'ai cru que j'étais au Canada. Alors... un des meilleurs Disney de ces dernières années, 5 millions d'entrées en France, un box-office total de quand même 600 millions de dollars.
Énorme.
Pourquoi j'ai mis ce morceau ? Puisqu'il a gagné un Grammy Award en 2018 pour la meilleure chanson écrite pour un média visuel en VO. Parce qu'en VO, c'est « How far I'll go ». J'espère que je l'ai bien dit. Nous, on a écouté la version française, qui est « C'est toutes les lèvres ». La preuve, tu as chanté extraordinaire. Ce film aussi, petite anecdote sympathique, il a été doublé également en tahitien et présenté en Polynésie française, à la fois en français et en tahitien, puisque l'intrigue se passant sur cette zone géographique, il était de bon ton de réussir à le doubler en VO, et ça c'est bon. Voilà, mais reprenons, on repart sur le sport, mesdames et messieurs. Et comment ça va Mélanie, depuis tout à l'heure ?
Ça va toujours bien.
Toujours prête à faire de la luge ?
Bien évidemment.
Toujours prête à parler sport ?
Bah ça, c'est sûr. Je suis là pour ça.
Exactement. Alors, dédicace à la régie comme d'habitude qui est présent, merci à vous. Et on repart sur notre légende de la semaine, Nathalie Geisenberger. J'espère que je l'ai bien dit, elle est allemande. Elle était extraordinaire. Alors déjà, avais-tu entendu parler de cette grande et magnifique légende du sport féminin ?
J'ai honte, mais pas du tout.
Eh bien, moi non plus.
Voilà.
Et pourtant, croyez-moi, elle va rester dans vos mémoires. Elle est tout simplement exceptionnelle. Alors, on rappelle déjà que le sport, la luge, on l'a dit depuis tout à l'heure, est déjà un sport extrêmement spectaculaire, plein d'adrénaline et de précision. Mais sachez que, juste pour mettre l'eau à la bouche, notre chère Nathalie possède déjà 80 médailles d'or.
C'est
voilà.
Tout.
C'est juste ça.
C'est un peu léger. Hein.
Je n'ai pas parlé des médailles d'argent, de médailles de bronze. Je le garde pour tout à l'heure.
Très bien.
Déjà, sont 80 médailles. Alors, qui est Nathalie Geisenberger ? Elle est née le 5 février 1988 à Munich. Elle est allemande, évidemment. C'est une ancienne lugeuse allemande qui a peut-être pris sa retraite, mais on n'est pas sûr. Mais en même temps, l'Allemagne n'a pas présenté de délégation pour la luge pour les JO de Milan.
Ça laisse un suspense.
Techniquement, elle est à la retraite. Parce que ça a été très difficile de le savoir.
C'est ça, on a fouillé.
On a fouillé quand même. Elle est considérée comme la meilleure lugeuse de l'histoire de sa discipline. Surnommée la reine de la luge, elle est la plus décorée de tous les temps. Alors, si on parle palmarès, tu veux un petit peu détailler le palmarès rapido sans médaille ?
Je te dis ce que j'ai noté et tu me contredis si j'ai tort.
Vas-y, allons-y.
Moi, ce que j'ai noté, c'est que sur tous les JO d'hiver consécutifs, elle avait au minimum 6 médailles d'or.
C'est ça.
Une médaille de bronze.
Oui.
Après, il y a les championnats du monde où là, elle est arrivée 9 fois première.
Exactement.
9 fois. 4 fois deuxième et 2 fois troisième. Donc, le nombre de podiums est quand même faramineux.
Oui.
Et après, il y a les coupes du monde où là, on ne parle pas de place, on parle de globe.
Oui,
parce que le trophée, c'est le globe de cristal. Et du coup, elle a 8 globes de cristal.
C'est ça. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Voilà. D'affilée.
Et là, on n'a pas parlé de tout ce qu'elle a gagné en junior.
Voilà.
Elle avait déjà une carrière avant la carrière.
C'est ça. Et en championnat d'Europe, évidemment, elle a aussi des médailles d'or en pagaille. Elle a exactement 80 médailles d'or, dont les 6 des JO, 59 médailles d'argent, 20 médailles de bronze en carrière. Ce qui est déjà un petit palmarès sympathique. Je tenais quand même à le souligner, puisque c'est exceptionnel, pour le coup. Effectivement, de Vancouver jusqu'à Beijing, elle a des médailles. Voilà. À part la Milan, elle va peut-être manquer sur cette discipline. Elle a tout gagné. Elle est vraiment hors norme. Du coup, parlons un peu de cette magnifique athlète allemande. À 6 ans, sa famille déménage pour Menschbach. Je ne sais pas où c'est, je n'ai pas regardé, mais je sais que c'est en Allemagne, c'est sûr. C'est ici à l'âge de 10 ans qu'elle intègre le club local de Luge. Rapidement, en junior, elle domine ses adversaires, comme tu l'as tout à fait souligné, remportant déjà 14 Coupes du Monde Junior, 3 Championnats du Monde Junior. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des statistiques complètement folles. Cette dernière année, en junior en 2007, elle intègre la Coupe du Monde avec l'équipe d'Allemagne. Et lors de sa première course à Allenberg, elle termine seconde le 20 janvier 2007. Voilà. Premier tournoi en carrière.
Ça se passe bien.
Petite médaille d'argent, voilà, pour se mettre en jambes. Elle est vraiment au-delà du soleil. En 2008, elle remporte son premier titre en devenant championne d'Europe à Cézanne Patriol, puis vice-championne du monde à Oberhof. Derrière sa compatriote Tarja Höfner, elle-même allemande. Il faut savoir qu'il y a une énorme tradition allemande, autrichienne, suisse sur la luge. Ils sont vraiment très forts. Mmh. Le record justement du monde est détenu par un Allemand qui a été un des compatriotes et coéquipiers de notre chère Nathalie, pour dire à quel point le top du top, le top de la crème. Ensuite, une nouvelle fois, elle est devant vice-championne du monde 2008, derrière l'américaine Erlin Hamlin. Cette dernière met fin à la série de 99, vous avez bien entendu, 99 victoires allemandes d'affilée dans des compétitions internationales. Voilà, ils ont une petite tradition. On va dire que la luge et l'Allemagne...
C'est leur truc.
Tiens, voilà.
Ça coule dans leurs veines.
En même temps, la neige, très souvent chez eux, pour
c'est
le
sûr.
Coup. Donc, je ne suis pas étonné. Alors, évidemment, elle gagne le relais mixte avec Félix Locke, le champion ayant le record du monde, André Forschulz et Thorsten Wutschlitz. Enfin, elle termine seconde de la Coupe du Monde 2009, derrière Höfner. Et aux Jeux Olympiques, elle s'inscrit dans la tradition de la luge allemande en décrochant médaille de bronze et après ne s'arrêtera plus que des médailles d'or. Donc déjà, sur le palmarès, chacun m'a souligné que si ça avait été un homme, je pense que son nom serait sur toutes les lèvres.
Probablement.
Il faut dire qu'aujourd'hui, avec ses 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques, elle est la plus titrée de toutes les femmes des Jeux Olympiques de tous les temps. Voilà, donc pareil, une légende. Pour l'entraînement et la préparation, elle est connue pour son travail physique intense, sa précision technique, sa préparation mentale. Même après une longue pause, elle a pu revenir au plus haut niveau. Car oui, elle est devenue maman et elle a accouché entre 2019 et 2020, où tout le monde a dit « Elle a pris sa retraite, c'est fini, on la verra plus, c'est terminé bah, ». Pas du tout. Elle revient et elle gagne 2 médailles d'or en Coupe du Monde. Les JO 2022, l'or, c'est pour elle. Championne d'Europe et évidemment, une médaille de bronze. Un argent de or. Bon, pour quelqu'un qui a pris sa retraite.
Ça, oui, c'est plutôt étonnant comme retraite.
C'est sympathique. Dans une interview, elle racontait son retour après une longue pause. J'ai ressenti la même sensation que d'habitude, même si j'étais nerveuse avant la première descente. Alors déjà, peut-être un petit commentaire sur quand on a une carrière professionnelle, sportive ou non, être enceinte, est-ce que c'est un frein ?
Je pense que même sans parler de sport, quand on est dans n'importe carrière, quelle carrière, on va nous dire « bah t'es sûr que c'est le bon moment ? Est-ce que maintenant c'est vraiment stratégique ou pas ?» Mm-hmm. Ma foi, si on veut avoir des enfants, je pense que dans n'importe quelle carrière, malheureusement ça peut mettre des freins, on le sait. Maintenant, est-ce que c'est pas à la société d'évoluer pour faire en sorte justement qu'en étant mère, on puisse continuer d'avoir une carrière et faciliter ce parcours de vie ? Bah, peut-être bien que si.
Eh bien, je suis assez d'accord avec cette analyse, étant donné que tu es une femme et que ça te concerne un peu plus que moi, au final. Je pense qu'il y a un petit truc quand même qui fait que ça me concerne un peu plus. Je pense que tu es plus concerné par le sujet, même si je suis concerné indirectement. Mais oui, tout à fait. Surtout dans les carrières et les sports, il y a toujours cette entre parenthèses. Une femme va accoucher, elle a son enfant, elle a sa vie de famille, et hop, d'un coup, elle n'est plus performante puisqu'elle a une vie de famille.
Parce qu'elle a une autre priorité. Et ça, ça peut faire peur aussi, de se dire, ok, l'objectif principal jusqu'ici, c'était le sport. Maintenant qu'il n'y a plus que le sport dans la vie, est-ce qu'elle va être aussi tenace sur la durée en compétition ?
C'est ça. Et alors que, bah, pour le coup, après une blessure Et les hommes ont des blessures. Mm-hmm. Après une blessure, parfois, tu peux arrêter de jouer pendant un an, deux ans, ça peut arriver. La question de la parenthèse est moins posée ouais. pour un homme. Voire, on ne lui dit pas, est-ce que quand tu vas revenir, tu n'en seras plus. Non, non. Et lui, on sait qu'il va revenir pour gagner le titre.
Et puis, on va attendre ton retour. Alors ouais. que quand tu es une femme, tu vas peut-être être plus facilement mise dans l'ombre.
Exactement.
Et on va passer à la suivante.
Mm. Et après, comme tu es dans le monde professionnel, c'est souvent la casse-placard, malheureusement.
Ouais.
Et il fait les temps que ça change, mesdames et messieurs. On peut faire changer ça, hein. Comme on peut le voir, la preuve. Nathalie, elle gagne des médailles d'or qui intervient et ce n'est pas la seule athlète à l'avoir fait. Alors, anecdote et citation marquante, évidemment à Beijing, Pékin 2022, ces derniers JO, mademoiselle Nathalie Geisenberger devient non seulement double championne olympique en luge individuelle, après évidemment sa grossesse, mais la première championne olympique de luge après être devenue maman. C'était pas encore arrivé.
Génial.
T'as vu ça ? Elle a une déclaration très sympa, j'aime beaucoup. Mon fils est mon numéro 1, je m'entraîne quand je peux, quand Léo dort, je pense qu'on s'en sort plutôt bien en famille. Bah, vu le nombre de médailles. Je ne peux que lui donner raison.
Ouais, et puis ça porte en lumière le discours sur l'équilibre vie pro-vie perso. Est-ce qu'elle aurait été aussi performante si elle s'était mis des barrières dans sa vie personnelle et si elle n'avait pas cet équilibre-là ?
Exactement.
On a déjà parlé de différentes sportives qui avaient eu des périodes compliquées niveau santé mentale dans leur carrière et du coup, à ce moment-là, elles avaient eu des bas. Là, c'est plutôt chouette de voir un parcours comme ça.
Ouais, c'est clair. C'est hyper... comment dirais-je ? Oui, c'était hyper inspirant. J'avoue, ça me donne envie de faire de la juge et de me dire, bon, bah, si je me fais mal, en fait, bah, on peut continuer, tu vois, c'est pas grave. C'est avec un peu d'abnégation et d'organisation, c'est possible. Et évidemment, elle dit aussi des choses sympathiques, puisque évidemment, quand on est une femme, on est souvent comparé dans le sport à d'autres femmes ou les hommes. Elle dit, c'est difficile de comparer les médailles olympiques parce que chacune a sa propre histoire. Ma première était très spéciale parce que c'était la première. Donc effectivement, comparé à d'autres athlètes, c'est pas un truc qui la botte. Et je trouve que c'est une bonne manière d'appréhender aussi le sport en collectif, puisque les athlètes ont leur propre histoire, leur propre parcours. Un tournoi n'est pas le même parce qu'il y a le lieu, il y a la piste, ça peut être aussi le terrain, il y a plein d'éléments qui vont être très différents et chaque victoire est unique. Et donc comparer les athlètes entre eux, parfois ça n'a pas vraiment de sens le palmarès, mais bon, comme nous sommes nous les hommes des sportifs de canapé, on aime bien faire ce genre de truc qui n'est pas vraiment utile en fait, mais bon. Et tout le monde connaît cette phrase, qui c'est qui gagne à la bagarre entre un gorille et un requin blanc, bien sûr.
Oh,
voilà.
J'imagine la scène, je ne sais pas les départager, ça dépend si c'est dans l'eau ou à l'extérieur de l'eau. Je pense.
Dans les airs,
oh,
voilà.
Oh.
Alors, pour l'impact sur son sport, Nathalie Geisenberger a profondément marqué la luge pour plusieurs raisons. Déjà, elle est record woman et... modèle absolu. Elle a élevé les standards de performance féminine en luge avec des records historiques dans les principaux rendez-vous mondiaux. Elle est pionnière parce que mère championne. Son retour à très haut niveau après une maternité a inspiré beaucoup de sportives, soulignant qu'il est possible de combiner carrière sportive d'élite et vie de famille, ce que tu disais tout à l'heure. Là, il y a un exemple concret. Donc, ça peut plus être un argument ni une barrière, puisque c'est possible de reprendre sa carrière sportive ou même professionnelle. Figure emblématique de la domination allemande, comme on l'a dit, elle a contribué à la suprématie allemande en luge au niveau féminin pendant presque 12 ans. Voilà.
Pas de concurrence.
Voilà, sans compter le parcours junior qui était exceptionnel. Grâce à son palmarès incomparable et sa longévité au plus haut niveau, elle est souvent citée comme la greatest of all time, the GOAT. Ben, comme on dit chez nous. Traduction française, bien sûr, la meilleure de tous les temps de la luge féminine. En résumé, Nathalie Geisenberger est la lugeuse la plus titrée de l'histoire de son sport. 6 médailles d'or et une de bronze aux Jeux Olympiques, 9 titres mondiaux, des globes en pagaille. Elle a su revenir au plus haut niveau après une pause maternité, renforçant son statut de modèle pour les athlètes féminines du monde entier. Ses déclarations témoignent d'une mentalité de compétence affirmée, d'une passion pour la victoire et d'un équilibre entre sport et famille. Et ça, c'est cool parce qu'elle n'est pas du tout dans ce mental de sportif qui sert à écraser l'autre. Puisque je fais la petite différence que tout à l'heure, on parlera de la manière d'apprendre le sport entre les filles et les garçons. Nous, on nous dit, quand tu fais du sport, il faut que tu gagnes. Voilà, il faut que tu sois le meilleur. Mais pour être le meilleur, il faut que tu battes l'autre. Tu vois, cette mentalité un peu spécifique. Et nous, les garçons, on nous dit toujours, il faut être meilleur que l'autre, mais en le battant, en se comparant, mais surtout en l'écrasant, littéralement.
C'est pas très bienveillant.
Non, on est en 2026, il faut changer.
C'est l'heure.
C'est pas un bon timing, une bonne façon de voir les choses, je trouve. Mais effectivement, le fait qu'elle ne va pas dans ce sens-là et qu'elle ne donne pas le change à ce genre de pensée, surtout que les athlètes féminines ne sont pas celles qui sont le plus médiatisées, je pense que déjà, c'est pas mal. Est-ce que tu veux faire un commentaire avant qu'on envoie de la musique ?
Bah, le commentaire que j'aurais serait pas un commentaire, mais plus mettre un petit peu la lumière sur une nouvelle athlète qui, elle, va participer au JO de Milan. Et du coup, elle s'appelle Veronica Ravena. C'est la première athlète qui vient d'Argentine. Donc elle, elle est née en Argentine. Elle a grandi plus tard en Canada. Elle est arrivée à 6 ou 8 ans au Canada. Elle a commencé la luge via une petite sortie scolaire. Elle est tombée amoureuse et elle n'a jamais arrêté. Et là, du coup, elle est née en 98 et elle fait ses JO. Et ça va être chouette de la voir évoluer là-bas. Et ce qu'elle raconte est assez intéressant. Elle fait le parallèle entre l'expérience qu'elle a sur une luge et des montagnes russes. Et elle dit, pour moi, c'est la même chose. Je me lance, je démarre en bas de ma piste, je monte doucement. L'adrénaline vient et arrivé là-haut, j'ai plus peur. C'est le moment.
C'est très beau.
C'est très beau.
Bah écoute, je vais suivre attentivement ces JO, clairement, ça peut être cool. Alors je rappelle à tout le monde que oui, vous êtes bien sur Allegre FM 93.1, vous êtes toujours dans l'émission championne. On va se faire une jolie pause musicale. Alors maintenant, mesdames et messieurs, je dédie ce morceau à toutes les personnes qui vont réussir à passer cette nouvelle année dans la bonne humeur et l'entraide. Vous pouvez rêver, oublier tout, concentrez-vous sur la voix qui va arriver, le morceau lui-même. Prenez votre temps, évadez-vous. Musique maestro s'il vous plaît.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
We're talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm on sand ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry and take on.
Nous sommes toujours sur 93.1 Allegre FM. Je suis Cad, l'homme du 92. Vous êtes bien dans l'émission championne. On vient d'écouter le célèbre morceau Take On Me de Aha, mais en version acoustique. C'était beau, hein?
Je l'ai dans ma playlist. Comme je disais, c'est vraiment une musique merveilleuse. Je peux pleurer dessus.
Comme quoi, on peut revisiter la recette de sa grand-mère, mais il faut être délicat. important.
Ah, mais là, c'est pas revisiter la grand-mère. C'est la grand-mère qui se revisite elle-même.
J'avoue, c'est bien dit. Alors, pour m'accompagner ce soir, comme vous venez de l'entendre, j'ai la chance de partager la parole avec Mélanie.
Quelle chance.
Extraordinaire. Mélanie, évidemment, qui représente la gente féminine ce soir. Car comme je l'ai dit, nous les hommes, nous pouvons parler de sport à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, sans en avoir pratiqué de manière très intensive. Eh bien, aujourd'hui, avec un peu de passion, de recherche et d'information, les femmes peuvent le faire. Et tu en es la preuve vivante.
Merci.
Je t'en prie. Merci à toi d'être venue, surtout. Maintenant, nous allons parler de manière libre du sujet suivant. Alors, préparez-vous, mesdames et messieurs. Accrochez-vous évidemment à vos petites mirettes. Nous allons parler, peut-on en 2026 pratiquer du sport pour le plaisir ou est-on encore dans le diktat de l'obligation esthétique d'en faire lorsqu'on est une femme ? Alors évidemment, à l'ère des réseaux sociaux et du numérique, de ce moment où l'image est l'argument commercial et un gage de réussite, peut-on encore se faire plaisir dans cette pratique ou le superficiel l'a-t-il emporté ? Prenons une camomille. Mesdames et messieurs, ça va bien se passer.
Accrochez-vous.
Car j'ai la chance d'avoir une femme plutôt jeune en face de moi qui vit dans cette période où effectivement on est dans ce que j'appelle un point de bascule. Est-ce que tu es prête ?
Je suis prête.
Déjà, commençons par le début. Déjà, depuis toute petite, est-ce que l'on t'a intéressée au sport ? Est-ce que c'est venu tout seul ? Car je sais que tu as une passion pour le vélo. Et un jour, on fera une émission sur le vélo ensemble.
Alors, ça me ferait extrêmement plaisir de faire une émission sur le vélo. J'adore ça. Vraiment, c'est mon truc. Maintenant, non, je ne suis pas sportive du tout. À la base, pas pour un sou. Je pense que c'est parce que ça n'a pas été quelque chose d'important dans mon éducation. Mm-hmm. Mes parents ne sont pas spécialement sportifs et du coup, ils ne m'ont pas inculqué ça en me disant bah, « il faut absolument que tu fasses un sport comme d'autres enfants pourraient avoir des parents qui les poussent dans ce sens-là ». Donc moi, ça n'a pas été quelque chose qui est inné chez moi à la base et on ne me l'a pas inculqué.
D'accord.
Maintenant... la première approche que j'ai eue du sport, c'était à l'école, du coup, c'était obligatoire et il n'y avait aucune notion de plaisir. C'était, on est obligé de faire du sport.
Oui, l'EPS, bien sûr.
L'EPS, exactement.
Les cours d'éducation physique scolaire.
Ça a été ma première...
J'ai trouvé le sigle.
Oui, l'EPS, exactement.
Mais je viens de découvrir que c'est ça le sigle, en fait. C'est exceptionnel. Mais oui, et du coup, est-ce que tu as déjà eu la phrase « ce sport est un sport de garçon, c'est pas un sport de fille ».
Bien évidemment. Du coup, il y a eu l'EPS, mais tu me fais penser. Il y a eu la balle aux prisonniers avant et il y a eu le foot dans la cour de récréation auquel nous, filles, on n'était pas invitées. On n'avait pas le droit d'y jouer. Non, nous, on faisait de la corde à sauter et encore.
Corde à sauter et...
Quand il y en avait. Et le sport était très genré pour le coup à ce moment-là. Et plus tard, je me suis mise au sport, mais ça a été pas par amour du sport, mais parce que j'ai pu recevoir des critiques sur mon physique.
On arrive au sujet.
Ouais. Et du coup, on m'a dit « Oh, bah, t'es un peu trop grosse. Oh, bah... Mmh. »
Il ouais, faudrait que tu ailles courir un peu.
C'est ça. T'as 13 ans, t'as 14 ans, ça se met dans ta tête. Et du coup, je suis allée faire des footings. Et ça a été une nouvelle approche du sport où on se fait violence pour aller sculpter un corps pour faire plaisir à des gens,
oui.
À une société,
à une
des
image.
Personnes qui se permettent de juger le corps d'autrui.
Ah bah, là, on est en plein dans le sujet. Bah, alors, je vais quand même faire une parenthèse. J'aimerais savoir comment t'en es arrivé au vélo, du coup. Le vélo, ça sort d'où ?
Ah, le vélo, ça n'a rien à voir. Le vélo, c'est mon grand-père qui regardait le Tour de France.
Aha.
Et moi, tous les étés, j'allais chez papy, mamie. Et tous les étés... Vu que je voulais pas aller jouer dehors, parce que toujours pas sportive, ben je me mettais avec papy.
Ah, d'accord, ok. Ça vient de là, cette passion.
Exactement. Et du coup, j'ai appris tout ce qui porte sur le vélo avec mon grand-père.
Voilà, encore une preuve que n'importe quel être humain, s'il s'intéresse
exactement.
À un sport, peut devenir une petite pointure.
C'est ça.
Voilà, puisque tu ne rates aucun Tour de France,
j'adore.
J'ai quand même à le dire.
J'adore.
Alors, évidemment, reprenons évidemment le sujet, comme tu l'as dit, esthétique versus plaisir et santé. Alors, on en est là, en 2026, pratiquer du sport pour le plaisir ou est-ce encore être enfermé dans l'obligation esthétique, surtout quand on est une femme ? Le contexte, on le connaît, à l'ère des réseaux sociaux, l'image corporelle est devenue un capital social et économique pour beaucoup. Sports esthétiques sont trop souvent liés par la publicité notamment, qui veut vendre du matériel sportif et donc va mettre quelqu'un... Mais surtout, on ne va pas forcément utiliser des corps qui sont dans la nature normale, c'est-à-dire des corps moyens, un peu ronds et différents. Non, on va prendre des filles qui sont très sculptées pour vendre quelque chose aux filles. Pour les garçons, c'est la même chose. Évidemment, on ne va pas prendre des types qui font 140 kilos, on va prendre un type qui est musclé, qui est beau, en plus avec une belle petite barbe de deux jours. Donc on est vraiment sur ça. Et les femmes sont plus exposées à la pression esthétique dans les médias et le sport. C'est réel, tu viens d'en parler. Et on va creuser cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup. Les expériences médiatiques sexualisent ou valorisent plus souvent les corps féminins que masculins. Une étude a montré que dans la publicité, les femmes sont bien plus fréquemment représentées dans des postures séduisantes plutôt que performantes ou compétitives. Et je terminerai, je te laisse la parole sur ce sujet en disant un homme qui transpire, il a du charisme, il souffre. Ouais. Une femme qui transpire, bah...
pas propre.
Voilà. Ouais. Alors vas-y, je te laisse déjà dérouler sur cette partie-là.
Bah, en fait, la première fois que j'ai entendu ta question, la première réponse que j'aurais voulu te donner, ouais. C'est pas une question qui se pose, parce que si je marche dans la rue et que j'arrive devant un stade de foot et que je vois 11 gars en train de courir après un ballon, je vais pas me demander est-ce qu'ils le font pour ressembler à un physique absolu qu'ils trouvent très esthétique, ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils aiment le foot. Je me pose pas la question, ils le font parce qu'ils aiment le foot.
Ouais.
Et par contre, du coup, c'est vrai que tu vas à la salle de sport, à la salle de musculation par exemple, tu vas voir des gars qui soulèvent de la fonte, tu vas te dire bah, c'est des mecs qui soulèvent de la fonte.
Ouais, ils soulèvent de la
fonte. Et par contre, tu vas voir, et on le voit très souvent sur les réseaux sociaux, beaucoup de critiques quand tu vois des filles qui sont en train de soulever des poids, parce que tu te dis, ah bah en fait, elles le font juste pour se sculpter un corps, parce qu'elles sont narcissiques, parce qu'elles veulent ressembler à quelque chose. Et du coup, je trouve ça assez rabaissant.
C'est très rabaissant.
C'est très
et d'ailleurs,
rabaissant.
C'est bien, tu soulignes un truc, un sujet sur lequel je voulais te lancer, transition. Comme on parle des corps sculptés, est-ce que quand tu étais jeune, on t'a pas aussi imposé le « Ah, mais ce sport-là, ça va, les muscles que tu... » Par exemple, tu fais du foot, je pense à quelqu'un, là, à Sandrine, son papa lui a dit « Tu peux pas faire de foot parce que ça va t'abîmer les jambes.
Bah » Ouais. Alors, moi non, parce que du coup, vu que je faisais pas de sport, voilà. À part la course, et encore, ça va pas durer très longtemps.
Mais je pense
non.
Que t'as déjà entendu
mais
ce
ouais,
genre
j'ai eu une copine et même ma grande sœur où pour le coup, elle faisait de la natation et un grand-oncle lui avait dit « Oh, bah, tu devrais arrêter la natation, t'as 16 ans, tu risques d'avoir des larges épaules. »
Oui, mais...
Oh, bah, elle aime nager, c'est bon pour le souffle, c'est bon pour la santé, elle aime ça. Et du coup, là, on se retrouve à interdire. Ouais. On lui met une petite
pression.
Graine dans le crâne qui va pousser parce que c'est à l'âge où on est en pleine construction et les doutes peuvent vite s'installer. Et on va lui dire « Ce sport, il n'est pas fait pour toi, fais de la GRS, c'est mieux, c'est gracieux, c'est élégant. » Et c'est féminin.
je n'ai rien à rajouter à ça. C'est tellement vrai et très bon. Ensuite, évidemment, sport et image, je continue. 61% des femmes déclarent que l'apparence de leur corps influence leur motivation à faire du sport. J'ai pas tout de suite compris ce que ça voulait dire. Puis en fait, en réfléchissant, je me dis, ah oui, c'est quand même l'image qu'on a déjà de soi.
Ouais.
Va clairement enquiller, va conditionner la motivation à faire du sport. Et comme tu as dit, ça va être avec des réflexions que bah, c'est que ce soit une pub télé ou que ce soit la grand-tante qui dit « Ah, mais faut pas que tu manges ci, nani, faut que tu perdes du poids, etc. » Il y a vraiment une pression. Et en fait, là où j'ai posé cette question, parce que moi ça m'intéresse, c'est que nous les hommes, quand on fait du sport, comme je t'ai dit, c'est soit du plaisir, soit de la compétition. Mais chez les femmes, j'ai l'impression qu'on fait du sport... c'est pas le premier terme qui va venir, c'est souvent une pression, on leur a dit d'en faire parce qu'il y a un problème avec l'image qu'elle véhicule. Oh. Mais vas-y, je te laisse
en fait,
dérouler.
Je suis d'accord et pas d'accord. Pour moi, ça va dépendre de chaque individu. Je pense que déjà, fille ou garçon, plus on t'inculque tôt l'esprit du sport, plus tu vas être amené à en faire dans ta vie. Donc ça, c'est fille ou garçon. Maintenant, là notamment, enfin moi je me suis mise à la salle de sport il y a quelques mois maintenant et je vois plein de gens différents de tout âge. Et quand tu dis que les garçons c'est par amour de faire du sport, je suis d'accord. Les filles ça peut l'être aussi. Maintenant je pense que les diktats de beauté actuels avec l'expansion des réseaux sociaux, ils arrivent à toucher et les filles et les garçons. Et du coup, tu peux aller voir sur n'importe quel réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat ou autre. Tu vas avoir des influenceurs qui montrent leur corps. Et l'objectif, c'est de promouvoir l'esthétisme. Et là, tu n'es plus forcément dans l'amour du sport ou dans la performance. Ce n'est pas être capable de faire tel exercice ou être capable de faire tel sport dans tel temps. C'est juste montrer, promouvoir.
Ouais, voilà. Promouvoir. Bah d'ailleurs, j'ai vu une stat qui était assez folle. Quand un sportif sur les réseaux sociaux montre une performance, il perd 30% d'audience que s'il y a juste un avant-après.
En transformation physique.
Exactement. Et en fait, la transformation physique, ça en dit beaucoup, je pense, sur notre société et comment fonctionne l'algorithme et comment, en fait, on construit les consciences de demain. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre une transformation avant-après, fille ou garçon d'ailleurs, qui va être une transformation littéralement du corps, d'un corps qui n'est pas forcément esthétique, mais qui est normal parfois, hein, qui est juste dans la moyenne.
Tu dis qu'il n'est pas forcément esthétique, je ne suis pas d'accord. C'est juste qu'il ne correspond pas
voilà.
À la norme de beauté actuelle en Europe occidentale.
Merci de me corriger. Et t'as complètement raison. Et du coup, derrière, quand il se transforme effectivement dans ce diktat, dans ce carcan de bah voilà ce que devrait être la norme qui est séduisante, bah là, du coup, il y a un pic de vue qui est abominable. Alors que la performance, pour moi, fait partie de l'accessibilité à quelque chose, tu vois. C'est un parcours. Ça sert à rien de vouloir dire bah, hier, je faisais 130 et demain, j'en fais 80. Et il n'y a pas le cheminement en bas, tu vois. C'est comme si on dévalorisait l'effort fourni, la performance, mais aussi la persévérance. Faut avoir envie de faire du sport, tu vois. Faut rester motivé.
Non, et puis, il faut avoir un rapport sain au sport. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à aimer le sport parce que mon objectif, c'était d'atteindre un physique, un résultat physique. Mmh. Sauf que du coup, sur le long terme, c'est pas possible. Parce que ton corps est amené à échanger en fonction, pour les femmes, bah, de ton âge, de ton cycle hormonal, juste des hauts, des bas dans la vie. Et en fait, puisque tu n'arrives pas à atteindre ce corps-là en te forçant et en te faisant violence avec le sport, tu finis par abandonner le sport parce que c'est pas sain. Et du coup, ce qui est, à mon sens, très important, c'est de se dire, OK, quel est l'objectif avec le sport ? Faut pas perdre la notion de plaisir, parce que c'est censé rester une notion de plaisir. Le sport, c'est génial pour la santé mentale, c'est top pour la confiance en soi, pour décompresser après l'école ou après le boulot, ça fait beaucoup de bien, ça fait souffler.
Ouais.
Et c'est nécessaire. Et faut pas perdre de vue le côté plaisir, le côté santé aussi.
Oui, complètement.
Et peut-être essayer de se questionner sur, OK, quel est le rapport à mon sport. Et est-ce que ce sport-là, il me correspond ? Et du coup, là, on peut aussi se poser la question de bah, pourquoi j'ai choisi ce sport-là ?
Oui,
est-ce que c'est pour l'objectif physique ? Est-ce que c'est l'objectif ressembler à mon idéal ? Ou est-ce que c'est vraiment
la pratique ?
Bah, je me fais plaisir en faisant un sport que j'aime.
Voilà, la pratique, en fait.
C'est ça.
Mais tu as raison. Et d'ailleurs, effectivement, il y a des études qui disent que les personnes qui font du sport bah, régulièrement, pour les bonnes raisons, comme tu as dit, parce qu'il y a vraiment un gros pourcentage entre ceux. Et pourquoi je voulais ce sujet ? C'est parce qu'on connaît, on est au début janvier, tout le monde va prendre une carte, un abonnement à une salle de sport.
C'est ça.
Et dans 2 mois, va arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas les bonnes raisons. Par contre, les personnes qui sont vraiment dans cette minorité qui aiment le sport par plaisir, qui ont trouvé le sport qui leur correspond, qui sont dans une envie de performance et qui gèrent bien leur vie pro, perso et le sport, restent plus longtemps. Et c'est ceux qui, sur les réseaux sociaux, sont les plus sympas à suivre d'ailleurs. Il y a vraiment une progression. Et le sport permet de réduire l'anxiété.
Ouais.
Il y a des études qui prouvent que faire du sport régulièrement réduit l'anxiété, en plus de tous les bienfaits de la santé pour le cardio, évidemment, pour les articulations, pour le dos. Très important, mesdames et messieurs, votre dos. Pensez à votre dos. C'est important. Donc effectivement, il y a vraiment un truc fou autour de ça. Et effectivement, comme tu disais, pour l'estime et l'image du corps, il y a vraiment une auto-objectification, c'est-à-dire que certaines personnes rentrent dans un mauvais cycle, ça aussi c'est quelque chose que je voulais dénoncer, qui est bah, qu'ils font du sport pour mauvaise raison, ils restent sur esthétique et leur vie ne tourne qu'autour de ça. Et si jamais, parce que j'ai vu des reportages sur des filles qui faisaient du sport à l'époque et qui mettaient tous les matins ce qu'elles mangeaient.
Mmh.
Et un jour, comme tu as dit, pour une raison hormonale ou pour un bas dans la vie, elle n'arrive plus à soit perdre du poids, soit être performante, tu vois, elle stagne en fait. C'était de dépression, voilà.
C'est compliqué.
Ça amène littéralement une dépression, quoi.
Bah, c'est se mettre des objectifs qui ne sont peut-être pas les bons, en fait. Et c'est surtout, il faut garder en tête que ce soit dans la pratique sportive ou dans la vie de manière générale, on ne peut pas être constant. Et à partir du moment où le sport, on n'est pas des professionnels, j'ai dit ça et en même temps, je pense que même si on est professionnels, on a des hauts et des bas et des performances plus ou moins bonnes, et ce qui est normal, on reste humain. Hein. Faut garder en tête que ça va fluctuer. Et c'est normal. Il ne faut pas se mettre une pression sur ses performances.
Ouais, clairement. Et comme tu as dit, il faut trouver quelque chose qui vous correspond. Par
c'est
exemple, tous les deux, on aime bien danser.
On adore danser.
Voilà. Donc moi, je sais que pour mes vieux jours, ça sera le club de danse de la ville.
C'est ça.
En truc salon, et je vais me buter à ça.
Je viendrai te voir.
Bah oui, je ferai les kermesses.
Génial.
Et le petit festival de la fête à Luneux, à droite à gauche, tu vois. Mais vraiment, oui, il faut vous trouver vraiment un truc qui vous correspond, et il ne faut pas rester coincé sur des diktats. Et le sport, c'est long. Avant de porter ses fruits, ce n'est pas en allant courir une fois que ça fonctionne. C'est comme dirait un grand philosophe, la vie n'est pas un sprint, mais une course de fond. Kerry James. Du coup, conclusion provisoire, puisqu'on reviendra sur ce sujet à un moment ou à un autre. À l'ère numérique, en 2026, la pratique sportive féminine oscille entre deux pôles. D'un côté, la pression sociale et esthétique amplifiée par les réseaux sociaux et l'industrie du fitness pousse vers les pratiques où l'apparence prime, comme tu as dit, le résultat. Voilà, on n'est que sur le résultat et on veut que le résultat et le reste, on sacrifie tout pour le résultat et si on ne l'a pas, eh ben, on peut faire une dépression ou pire, l'avoir et le perdre, c'est encore plus chaud psychologiquement parce que les gens ne sont pas prêts à ça. De l'autre, il existe une dynamique évidemment croissante autour du plaisir, de la santé, de la performance personnelle. Moi, quand je vais courir, ce qui m'éclate, c'est de battre mon score de la dernière course. Alors, c'est pas bon pour mes articulations, parce que ça va trop vite. Mais ça, c'est un biais qu'on a, nous, les garçons, de vouloir toujours faire mieux. Mais c'est ce qui m'éclate le plus.
Il faut t'échauffer, Cab, avant de te lancer.
Oui, surtout, il ne faut pas que je glisse. Un jour, je vous raconterai cette petite chute. Du coup. Donc, de l'autre, il existe une dynamique croissante autour du plaisir, la santé, la performance personnelle, valorisée par des communautés sportives authentiques et des athlètes modèles. N'hésitez pas à trouver des gens qui font ça, non pas pour l'argent et qui ne demandent pas quelque chose, mais des gens qui le font vraiment pour le plaisir, qui donnent des vrais conseils, c'est important. La question n'est donc pas uniquement peut-on encore pratiquer pour le plaisir, mais plutôt comment réorienter le récit médiatique et social du sport féminin vers des valeurs de compétence, de plaisir et de santé. Et là, c'est le moment où on s'auto-applaudit. Parce que c'était cool. Je rappelle que vous êtes toujours sur Allegre FM 93.1, vous êtes toujours dans l'émission championne et nous arrivons vers la conclusion. Alors évidemment, je te remercie, ma chère Mélanie, d'être prêtée à ce jeu-là. Tu reviendras, je l'espère, peut-être.
Bien évidemment, ça m'a fait encore une fois extrêmement plaisir d'être avec vous.
Alors, sache qu'on a fait Jeannie Longo, Pauline Ferrand et Félicia Ballanger. Il faut donc que je trouve une quatrième grande championne de vélo, ça doit exister.
On peut trouver ça.
Pour pouvoir t'inviter sur ce moment-là. Évidemment, je remercie Allegre FM, sans qui rien ne serait possible. Évidemment, merci beaucoup à eux de nous offrir l'opportunité de faire cette émission. Évidemment, la régie, toujours présent, des bisous. À Jules, dans notre cœur, encore et toujours, bien sûr, surtout pour la régie. Alors, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, c'est le compte @champion_l'émission sur Instagram. La Fédération des sports de glace sur Instagram, c'est @FFSportDeGlace. La Fondation du sport français, dont on a parlé dans la dernière émission, c'est @FondationDuSportFrançais. La Fédération internationale de luge, @Phil_luge, bien sûr. Nathalie Geisenberger a son propre Instagram. Je vous invite à la suivre, vous verrez, très cool. @NathalieGeisenberger. Évidemment, la PETA, puisqu'on aime les animaux. Et bien sûr, la page Facebook Quiz de Foot pour un ami qui vous veut du bien. Eh bien, il nous reste une minute et quelques. Je te laisse conclure. C'est toi le mot de la fin.
Écoutez, moi j'ai été ravie de discuter de luge avec vous. J'aspire vraiment à essayer au moins une fois dans ma vie, même si la vitesse me fait extrêmement peur et que je pense du coup que je resterai rigide comme un bout de bois. Et comme Kad l'a dit, il faut être détendu et souple, donc ça risque d'être chaotique. J'espère que ce ne sera pas filmé.
Voilà. À tous, je vous souhaite une heureuse année. Dans les prochaines émissions, les nôtres, mais aussi toutes celles d'Allegre FM, n'hésitez pas à jeter un œil, une oreille curieuse et écoutez. En plus, les émissions sont vachement bien produites. Il y a des super régisseurs qui sont là sur presque toutes les émissions et vraiment, on les remercie. Donc, n'hésitez pas à passer une bonne année. Évidemment, lisez des livres, voyez des films, occupez-vous de vos proches, c'est important. La bise, à très bientôt.
Allegre FM 93.1.